14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Dans les journaux, j'ai lu qu'on avait découvert le corps d'une personne dans un bois. Donc là, le faire en se disant non, c'est pas possible, mais j'ai quand même appelé la gendarmerie en leur disant que je n'avais plus de nouvelles d'une de mes serveuses depuis le vendredi soir. Puis malheureusement, il s'est avéré que c'était Jennifer.
Bonjour, il y a 15 ans, au printemps 2007, le corps de Jennifer Charron, 21 ans, était découvert dans un bois près de Royan, en Charente-Maritime. L'enquête promettait d'être rapide, évidente, rondement menée après l'interpellation de deux suspects, sauf que leur implication, qui paraissait évidente, va s'effriter. Leurs explications confuses et contradictoires vont brouiller les pistes. Dès lors, l'enquête va connaître des tours et des détours, des rebondissements de taille, au point que le dossier de la mort de la jeune serveuse va devenir un cas insoluble, comme si les pièces de ce puzzle criminel, a priori facile, ne parvenaient plus à s'emboîter les unes dans les autres. 15 ans après les faits, les proches de la victime se posent inlassablement les mêmes questions. Pourquoi Jennifer était-elle visée? Un des deux suspects était-il son meurtrier? Saura-t-on un jour, vraiment, ce qui s'est passé? Question que nous allons poser à nos invités et témoins de cette histoire.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Au programme de l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jennifer Charron. Au printemps 2007, cette jeune serveuse qui travaille sur la côte de Beauté à Royan ne va soudain donner plus aucun signe de vie. On va la découvrir assassinée dans un bois de la région. Ce dimanche 29 avril 2007, à 10h40 du matin, un cueilleur de champignons qui arpente le bois de la Chèvre sur la petite commune de Saint-Sulpice de Royan est attiré par une forme qu'il aperçoit dans une petite clairière. Posée sur une dalle de ciment décrépit qui servait à une époque à entreposer des ruches, il y a un corps, face contre terre. Les mains sont attachées dans le dos à l'aide d'un vêtement, un tricot solidement noué. La victime porte un jean, un blouson en jean, des baskets blanches maculées de terre. La tête et une partie du tronc sont calcinées, les restes d'un sac à main sont carbonisés, tout comme les branches des arbres voisins. Impossible pour les gendarmes d'identifier la malheureuse, abandonnée dans ce coin qui est un lieu de rencontre nocturne où l'on vient consommer des stupéfiants. La jeune femme a été tuée alors qu'elle avait les mains liées. Elle a reçu des coups au visage qui ont provoqué des fractures et un coup très violent sur la tête qui a entraîné une hémorragie cérébrale. Elle n'a pas été violée. Ce n'est qu'après que le ou les meurtriers ont tenté de mettre le feu à la dépouille avec un bidon d'essence. La mort pourrait remonter à la soirée de samedi. Les enquêteurs se renseignent sur de possibles disparitions de jeunes femmes. Le gérant du Mareilleur, un restaurant du Front de Mer à Royan, affirme que l'une de ses serveuses, pourtant sérieuse, ponctuelle, ne s'est pas présentée samedi matin à l'ouverture. Après vérification, aucun doute, la morte du bois de la Chèvre est bien Jennifer Charron, 21 ans. Les gendarmes reconstituent les dernières heures de Jennifer. Vendredi soir, juste après 23h, elle a quitté son service au Mareilleur. Elle est partie avec Nathalie, une autre serveuse, qui l'a laissée 10 minutes plus tard sur le front de mer. Jennifer ne souhaitait pas aller prendre un verre car elle devait se lever tôt. Sur son chemin pour rejoindre la cité Touvent à Royan, à 2 kilomètres du centre-ville, où elle loue une chambre chez des particuliers, elle a discuté avec un ami serveur du restaurant Quai West, puis elle a repris sa route, son sac en bandoulière. Elle n'a jamais rejoint la cité Touvent. Son téléphone portable est introuvable, mais il est établi que la serveuse a reçu 3 appels dans la soirée. Le premier à 23h37, depuis une cabine de Royan. Les 2 autres à minuit 20, puis 1h28 du matin. Les enquêteurs étudient les hypothèses. Ils n'excluent pas la piste d'un prédateur itinérant, d'un tueur en série. Le meurtre de Jennifer Charron va être ainsi rapproché de 2 autres homicides, 2005-2006, commis en Gironde et dans le Pas-de-Calais, ceux de deux jeunes femmes, Chantal Séguineau et Sabine Guyot. Toutes les victimes avaient les mains attachées, elles ont reçu des coups sur la tête et ne portent pas de traces d'agression sexuelle. Jennifer et Sabine ont été partiellement brûlées. Les 7 gendarmes de la cellule Assassinat 17 ont toutefois du mal à relier ces dossiers. La piste de l'entourage de la victime est privilégiée. Une dispute avec une ex-logeuse est étudiée. La vie intime de la victime passée au crible. Son dernier petit ami, Abdelaziz Seridi, 37 ans, surnommé par tout le monde Samir, avait rompu avec elle quelques jours avant le drame. Il s'est spontanément présenté aux enquêteurs, très affecté par cette histoire. Le soir du meurtre, il avait passé la soirée chez des amis. Et on va voir dans cette affaire que Samir et un autre homme vont retenir l'attention des enquêteurs. Nous verrons leur implication dans le chapitre suivant et l'accélération alors des investigations. On va se concentrer pour l'instant sur cette scène de crime avec notre premier invité qui est en ligne aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. C'est Ronan Chérel. Bonjour Ronan Chérel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste pour Sud-Ouest. Vous avez suivi toute cette affaire. Vous la connaissez dans ses moindres détails. Déjà un mot sur cette scène de crime qui est impressionnante, j'ai envie de dire. Parce que c'est même pas un assassinat, c'est une exécution, tout simplement.
Pour le coup, ça a laissé évidemment les gendarmes perplexes spontanément, d'autant que les gendarmes ont mis du temps à identifier la victime. On fait un raccourci un peu rapide et tout de suite on identifie Jennifer Charron. En réalité, les gendarmes, entre le dimanche et le mardi, se sont grattés la tête. Justement, personne ne leur signalait la disparition d'une jeune fille dans la région de Royan. Et ils ont fini par laisser fuiter l'information auprès de la presse locale de Sud-Ouest, notamment, pour déclencher des témoignages. Et à partir de là, ils ont pu identifier Jennifer Charron de manière formelle, effectivement, parce que la scène de crime ne leur permettait pas de mettre un nom sur ce corps à moitié calciné d'une jeune fille. Effectivement, ils ont pu déterminer que c'était une jeune fille. Au-delà de ça, il n'y avait aucun élément sur l'identité de Jennifer Charron.
Alors, donc, ça s'est finalement décanté en un peu plus de 48 heures, d'après ce que vous nous dites, Ronan Chérel. On va dire aussi de cette jeune femme ou jeune fille qu'elle fait beaucoup confiance. C'est quelqu'un qui ne se méfie pas dans sa vie de tous les jours, etc. Et que finalement, elle peut discuter un peu avec tout le monde. C'est ce que dit son employeur, notamment.
Jennifer Charron, il faut resituer, elle a 21 ans, elle vient d'un petit village de Charente-Maritime qui s'appelle Muron, qui est un tout petit village du côté de Surgères. Donc elle débarque entre guillemets à la ville, même si Royan n'est pas une grande ville, mais elle débarque avec toute sa jeunesse et sa fraîcheur, et puis également ses envies de liberté. Donc effectivement, elle côtoie beaucoup de monde, surtout en travaillant comme saisonnière dans la restauration, comme ça. Elle fréquente un milieu qu'on va qualifier d'interlope, parce que on le verra plus tard, mais Samir aussi des parts d'ombre importantes. Donc c'est une jeune fille de 21 ans qui effectivement ne se méfie pas, parce qu'elle n'a pas été confrontée encore dans sa vie à des coups durs.
D'accord. Donc, en tout cas, voilà, il y a ce profil que vous esquissez parfaitement, Ronan Chérel, et qui est intéressant, d'ailleurs, parce qu'on comprend mieux les liens qu'elle peut avoir les uns avec les autres. On a en ligne aussi Maître Charles-Emmanuel Andreau. Bonjour, Maître.
Bonjour, Jean-Alphonse Richard.
Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Maître Charles-Emmanuel Andreau, vous êtes l'avocat du père et de la belle-mère de Jennifer Charron. Juste un petit mot, les personnes qui logent Jennifer, les personnes qui la connaissent, elles s'inquiètent très rapidement quand elle disparaît, parce que c'est pas dans les habitudes de cette jeune femme.
Les personnes qui hébergeaient Jennifer s'inquiètent en effet très vite de la disparition, de sa disparition. Puisque il l'hébergeait, il connaissait ses habitudes, et que ne pas la voir rentrer alors qu'elle était attendue a tout de suite suscité chez eux une grande inquiétude, et ont permis aux enquêteurs d'avancer, puisque la première des difficultés à laquelle les enquêteurs ont été confrontés, c'était l'identification de la victime.
Alors, Maître Andreau, je vais vous poser une question, et puis je la poserai ensuite à Maître Francesca Satta, qui est également notre invité dans l'heure du crime. Il y a un homme qui apparaît très vite, c'est Abdelaziz Seridi. Il s'est présenté, je vous dis, lui-même au commissariat. À l'époque, c'est l'ancien petit ami de Jennifer. Quelle relation il a avec la victime? Qu'est-ce qu'elle racontait sur lui, Jennifer?
Je crois que Abdelaziz Seridi est quelqu'un qui est tout sauf calme et qui agit un peu par opportunisme. Et on ne sait pas quelle était la nature de leur relation. Je crois qu'il y a eu une passion au début qui s'est très vite étiolée, si je puis dire, et qui s'est transformée d'abord en indifférence, puis après en hostilité. C'est en tout cas le sentiment que l'on a eu. C'est une relation amoureuse qui a duré quelques semaines, 5 ou 6 semaines, guère plus. Mais voilà, Abdelaziz Seridi a toujours dit qu'il la respectait, qu'il l'aimait, Mais je pense que c'est plus pour les besoins de l'enquête que la traduction d'une véritable sincérité.
Alors, maître Francesca Satta, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir vous aussi accepté l'invitation de l'Heure du Crime. C'est un plaisir de vous recevoir dans le studio de l'Heure du Crime. Vous êtes l'avocate d'Abdelaziz Seridi avec Jean Moulineau et vous êtes avocate au barreau, au double barreau de Saintes et de Paris. On vient d'entendre votre confrère, maître Andro, alors qui a une vision un peu tranchée du sujet.
Tout à fait, tout à fait.
Sur ses relations. Seridi se présente tout de suite aux enquêteurs.
Seridi va effectivement être informé par la télévision d'une personne qui a été retrouvée dans les bois et qui à ce moment-là va être présentée, je dis bien à ce moment-là, comme étant Jennifer Charron. Évidemment, il entend cela et tout de suite, sa première réaction, et c'est dans cela que je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon confrère sur une indifférence qui pouvait régner entre eux, je pense qu'il a aimé franchement Jennifer. Peu importe, je dirais, la durée de leur relation, mais elle a été sincère et elle a été véritable entre ces deux personnes. Et quand il va effectivement entendre le nom de son ex-petite amie, tout de suite, il va vouloir évidemment s'informer de ce qui s'est passé, ce qui me paraît logique comme ex-petite amie, alors que ça faisait à peine une dizaine de jours qu'ils avaient rompu. Donc on était encore dans la fraîcheur d'une relation qui les unissait.
Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là aux gendarmes? Qu'est-ce qu'il raconte?
Alors, d'emblée, il va être très franc. Hein, il va dire, écoutez, voilà, je suis l'ex-petite amie de Jennifer, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je viens d'apprendre à la télé, les informations ne sont pas encore très claires, il semblerait qu'il est arrivé quelque chose à Jennifer, je voudrais être informé de ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est devenu mon ex-petite amie, quoi.
Ronan Chérel, on vous retrouve, journaliste pour Sud-Ouest et qui connaissait sur le bout des doigts cette affaire. Il y a des traces quand même sur cette scène de crime, hein, des empreintes, de l'ADN, il y a beaucoup de choses.
L'idée à retrouver forcément donc le corps lui-même déjà qui va donner beaucoup d'indications aux enquêteurs par la suite. Il a retrouvé ce sac à main calciné qu'on présume être celui de la victime également. Puis une étiquette alors qui provient du sac et qui est arrachée, on le verra plus tard, qui a son importance aussi parce qu'elle porte elle pour le coup des traces d'ADN parfaitement identifiables. Qu'on trouve également, et on retrouve le même ADN, sur les manches du chemisier de Jennifer, qui, très étonnamment, a été donc attaché des mains dans le dos. Elle est en soutien-gorge, on va préciser, parce que c'est très bizarre, parce qu'on cherchera le mobile éternellement, je pense, mais elle a les mains attachées dans le dos par son propre chemisier, elle est en soutien-gorge, mais on lui a enfilé quand même sa veste à nouveau, y compris on a passé les bras dans les manches de la veste de jean qu'elle portait, ce qui donne un tableau assez singulier et complexe à identifier pour les enquêteurs.
Et on a l'impression que c'est un petit peu, excusez-moi du terme, mais un petit peu artisanal tout ça, qu'on s'est dépêché ou on a mal fait les choses pour...
Ça ne ressemble pas effectivement à un assassinat au sens de programmation d'un acte criminel avec une vraie tentative pour faire disparaître le corps, parce que véritablement, certes, c'est un endroit un peu reculé, il faut connaître les lieux pour y accéder. Véritablement, il faut pouvoir emprunter un chemin de terre un peu chaotique, se dire tiens, où est-ce que ça me mène. Alors il faut connaître les lieux, certes, mais pour autant, c'est un peu perdu et le corps est abandonné là sans véritable tentative de dissimulation.
L'ADN, les indices, les recherches des gendarmes vont conduire avec insistance jusqu'au dernier petit ami, mais aussi à un homme qui a déjà un lourd passé judiciaire d'agresseur de femmes. Dès le début des investigations, la procureure de Saintes, Fabienne Azzori, a privilégié la thèse d'un acte criminel prémédité. Jennifer aurait été tuée par une personne qui la connaissait et l'avait attirée dans un traquenard. La justice a déployé les grands moyens, la scène de crime, un lieu de rencontre et de passage parsemé de mégots et d'emballages de préservatifs, a été ratissé par les experts scientifiques. Un laboratoire de biologie moléculaire a également été saisi pour prélever, analyser les traces de sang et les empreintes ADN. Une empreinte féminine est présentée, mais surtout deux masculines sont retrouvées sur les vêtements et les affaires de la jeune femme. Des traces de sperme appartenant à Abdelaziz Seridi, alias Samir, sont ainsi détectées sur le jean de Jennifer. Selon les déclarations de l'ex-petite amie et celles de témoins, le couple, au moment du drame, était déjà séparés depuis une bonne dizaine de jours. Jennifer avait confié à des amis qu'elle quittait Samir car il avait levé la main sur elle. Elle ne supportait pas non plus, disait-elle, que Samir, sans emploi fixe, vive au jour le jour de petits trafics. L'homme intéresse les enquêteurs. La nuit de la disparition, il affirme l'avoir passé jusqu'à 4h du matin avec des amis. Il indique n'avoir pas bougé, mais des témoignages de participants le contredisent. Il se serait absenté une bonne heure après avoir reçu un coup de fil qui l'aurait irrité, une femme qu'il présentait comme « la chieuse ». Les gendarmes n'en restent pas au seul Samir. Ils s'intéressent aux délinquants connus pour agressions sexuelles résidant dans le secteur de Royan. 17 noms sont isolés. Celui d'un certain José Nuno Mendes, de nationalité portugaise, retient l'attention. Il a été libéré en 2003 de la prison de Saint-Martin-de-Ré après avoir purgé sa condamnation à 20 ans de détention pour viol et tentative de meurtre sur une jeune femme. Après le viol, il avait tenté de mettre le feu à sa victime inconsciente avec de l'essence, elle avait pu s'enfuir. Il apparaît que l'ADN de cet individu qui réside en situation irrégulière près de Sainte est présent sur la scène de crime. Il a été identifié sur les effets personnels de la victime, à savoir sur le chemisier ayant servi à nouer les mains de Jennifer. Il est interrogé sur son emploi du temps. Mais ses déclarations manquent de précision. Il reste vague sur le coup de fil qu'il a passé le soir du drame depuis une cabine. Au terme de 8 interrogatoires, Mendes ne s'explique pas la présence de son ADN sur la scène de crime. Il maintient n'avoir jamais rencontré Jennifer Charon. Quant à Samir, il ne le connaît que de vue. 12 juillet 2007, le juge Serge Ray met séparément en examen Abdelaziz Seridi, dit Samir, et José Nuno Mendes. Pour assassinat, ils sont écroués. Seridi et Mendes nient les faits. Même si le Portugais, dès qu'il apprend qu'un autre homme est mis en examen, revoit totalement ses déclarations. Il dit avoir abordé Jennifer le vendredi 27 avril vers 17h. Elle se rendait à pied à son travail. Il aurait dragué et obtenu son numéro de téléphone. Il déclare l'avoir appelé le soir, un peu avant minuit, sous prétexte de recherche de 20 grammes de cannabis. Jennifer lui aurait passé Seridi. Il les aurait retrouvés sur une plage, puis les aurait laissés. Il a empoigné ce soir-là Jennifer pour s'amuser en faisant semblant de la jeter à l'eau, ce qui expliquerait la présence de son ADN sur le corps. Seridi dément formellement de son côté cette version des faits. Et voilà donc deux suspects trahis par des emplois du temps pas très solides, il faut bien le dire, et surtout par la présence de leur ADN. Maître Francesca Satta, vous avez défendu dans ce dossier, avec Maître Moulineau, Abdelaziz Seridi. Pas facile pour lui de se défendre, il est un peu coincé là. Qu'est-ce qu'il dit sur ses traces de sperme, sur son jean, alors que cela fait des jours et des jours qu'il ne voit plus cette petite copine?
Alors ça faisait effectivement une dizaine de jours qu'il n'était plus en lien avec Jennifer, et il n'était pas en capacité d'expliquer la présence de sperme lui appartenant sur le pantalon. Il fallait donc, à un moment donné, trouver, je dirais, un angle d'attaque, parce qu'il était sincère dans ses dires. Et il fallait effectivement arriver à démontrer que ce qu'il disait était exact. Donc un beau matin, je suis allée dans le bureau du juge d'instruction Ray et je lui ai dit, écoutez, il me semblerait opportun de refaire des analyses sur le pantalon, sur des pantalons similaires à ceux que portait la victime au moment des faits, en y mettant du sperme de mon client, et de voir, suite au cycle de lavage, si effectivement la présence du sperme est toujours d'actualité ou pas. Ouais. J'ai été un petit peu reçu, froidement, puisqu'il me disait, bon, écoutez, attendez, ça me paraît un petit peu extraordinaire, est-ce qu'on va dépenser effectivement de l'argent comme cela pour refaire un cycle de lavage? Et j'ai insisté, je suis resté 2 heures dans son bureau, j'ai insisté jusqu'à obtenir son acquiescement, et il m'a fait confiance, et heureusement. Et effectivement, le cycle de lavage a été refait. Ce qu'il fallait préciser dans cette affaire, c'est que la logeuse, à l'époque de Jennifer Charon, possédait une machine à laver qui avait plus de 25 ans d'âge. Donc, qui n'avait pas une fonctionnalité comme une machine à laver moderne. On va donc refaire le test, après avoir obtenu le consentement de mon client de bien vouloir donner du sperme pour refaire ce test-là. On va le faire, et on va s'apercevoir, au terme du cycle de lavage, que certes le sperme avait disparu, mais qu'il restait dans les fibres du pantalon des cellules épithéliales qui permettaient effectivement de pouvoir dire qu'on avait encore une présence du sperme, entre guillemets, de Céridis sur le pantalon.
Alors, c'est très important ce que vous dites, hein, parce que c'est une expertise qui a compté beaucoup, et on va le voir dans la suite, effectivement, ce lavage qui est imparfait, finalement, et qui laisse cette trace. Ronan Chérel, journaliste à Sud-Ouest, et qui avait mené toute cette enquête, et qui avait suivi toute cette affaire, il y a un peu plus troublant encore, c'est le fameux ADN de ce Mendes, le portugais. Où est-ce qu'on le retrouve, cet ADN?
Alors, l'ADN de Mendes, notamment, on le retrouve sur les manches du chemisier de Jennifer. Mmh. On le retrouve aussi ensuite, donc, sur l'étiquette du sac à main. Sur les manches, Mendes, il s'en explique assez facilement parce qu'il, dans son scénario de cette soirée du vendredi soir, il aura rencontré Jennifer.
On a perdu Ronan Chérel, mais on va vous retrouver tout de suite, Ronan. Je vais prendre maître Andro. Maître Andro, la tâche de sperme dont on parlait avec maître Francesca Satta, c'est un élément qui pèse lourd dans l'accusation contre Céridis. Vous allez vous en servir de cet élément.
C'est vrai que cette tâche qui est restée reste un mystère pour tout le monde. Et je crois qu'il est quand même assez difficile de pouvoir rester dans le flou, alors qu'en permanence, on a cherché à connaître son emploi du temps. Et nous avons eu de sa part que des réponses évasives, jamais pertinentes, et le sentiment toujours qu'il a voulu se chercher à échapper à sa responsabilité.
Alors là, voilà, donc ça c'est pour l'avis de maître Andro. Ronan Chérel, on vous retrouve, pardon pour cette interruption du son, pas de l'image, parce qu'on ne fait pas le télé, mais interruption du son. On vous reprend, alors vous dites, c'est important, je voudrais que vous nous expliquiez l'ADN de Mendes, où est-ce qu'on le trouve et pourquoi c'est très important dans cette affaire.
Oui, l'ADN de José Nuno Mendes, il est remarqué d'abord sur les manches du chemisier de Jennifer, on l'a dit, qui lui attachait des mains dans le dos. Lui, il s'en explique avec son scénario du vendredi soir. Il a rencontré Jennifer, il ne conteste pas, ou en tout cas, il finit par l'admettre. Ils ont chahuté sur la plage, et donc, bon, il l'a attrapé par les poignets, donc ce qui explique parfaitement dans ces cas-là qu'il ait pu déposer son ADN. Mmh. C'est plus troublant pour l'étiquette du sac à main, qui a été retrouvée, on le rappelle, sur la scène de crime, qui était une étiquette qui était à l'intérieur du sac à main, donc ça jette encore plus le trouble. Et là, Mendes, j'ai même entre les mains un courrier qu'il m'avait adressé depuis sa cellule de la maison d'arrêt de Sainte en octobre 2008.
Pour le journal Sud-Ouest.
Où il ne trouvait pas d'explication. Ouais. Tout à fait. Et puis il m'avait écrit à l'époque, alors pour totalement se dédouaner évidemment, et ça raconte beaucoup du personnage, mais sur cette étiquette à l'époque, il s'expliquait pas du tout de la trace de son ADN. Plus tard, une explication va lui revenir à l'esprit. Ouais. Mais beaucoup plus tard dans l'instruction, il a effectivement, pour rendre service à Jennifer, attrapé un paquet de mouchoirs au fond de ce sac à main pour qu'elle s'essuie les mains pleines de sable. Et voilà, son ADN se retrouve sur cette étiquette, selon son explication.
Alors ouais, c'est intéressant, parce que là, effectivement, il y a une explication à tout. Encore un petit mot, maître Satta. Ça pèse lourd, hein, ce passé de Mendes. Hein. Il a un casier qui est pas très glorieux.
Il a à la fois un casier qui est pas très glorieux, effectivement, parce qu'on a eu une condamnation de 20 ans de réclusion criminelle pour des faits quasi similaires à ceux qui nous occupent dans cette affaire. Et on a un personnage aussi. Très, je dirais, particulier dans les confrontations qu'on va être amené à faire avec lui, où il est très sûr de lui, très, je dirais, aguerri à ce genre d'exercice, si l'on peut l'appeler ainsi, face à un Céridis qui lui découvre, en fin de compte,
la justice.
Toute une spirale judiciaire qui lui est inconnue, où il se trouve happé par l'aplomb, je dirais, de Mendes. Et il a beaucoup de mal à pouvoir y faire face dans les confrontations. Et il dira à un moment donné, ça je m'en souviens très bien, il se lèvera et il dira au juge d'instruction, j'ai en face de moi le diable.
Ah oui, à ce point-là.
À ce point-là.
J'ai en face de moi le diable. Maître Emmanuel Andro, vous qui défendez le père de Jennifer Charron, il faut quand même le signaler, Mendes, il va changer son fusil d'épaule une fois qu'il saura qu'il y a quelqu'un d'autre en examen. C'est un peu douteux tout ça.
Exactement. Alors Mendes est quelqu'un qui est tout sauf fiable. Il a un parcours criminel très connu et il sait parfaitement que cette affaire pourrait tourner très mal contre lui. Sa position est incohérente en permanence. Il sert qu'une seule chose, c'est à se disculper. Donc ça, c'était cousu de fil blanc dès ses premiers interrogatoires, ce qui fait que ce n'a pas été le facteur déclenchant pour pouvoir envoyer Céridis devant une cour d'assises.
Les deux hommes nient le crime. Les enquêteurs et la juge estiment qu'il y a trop de flou dans leurs déclarations. Ils demeurent donc incarcérés. 7 mois après avoir prononcé les mises en examen des deux suspects dans le dossier Jennifer Charron, le juge d'instruction rend une ordonnance de remise en liberté pour Abdelaziz Seridi, alias Samir. Mais le parquet fait appel et l'intéressé reste incarcéré. Son avocate, maître Francesca Satta, déplore cette interdiction de sortie, mais se veut optimiste. Le deuxième suspect, José Nuno Abrantes Mendes, clame son innocence. Vu ses antécédents judiciaires et sa trace ADN retrouvée sur la scène de crime, les enquêteurs pensent qu'il est impliqué. Ses avocats, Cécile Hydro, Brice Giret, dénoncent les approximations de l'heure du crime. Ils parlent d'un coupable idéal. Juillet 2010, plus de 3 ans après la mort de Jennifer, le juge de Sainte-Serge Ray tranche. Il rend une ordonnance de non-lieu pour Abdelaziz Seridi et demande un renvoi aux assises pour le seul José Nuno Mendes. Les avocats de ce dernier dénoncent un acharnement contre un homme seul. Le parquet et la partie civile ne veulent pas en rester là. Selon eux, les deux hommes doivent comparaître aux assises. Le père de Jennifer fait appel, il obtient gain de cause. Les deux suspects sont bel et bien renvoyés aux assises, sauf qu'un événement spectaculaire va totalement bouleverser ce scénario. Le 5 décembre 2010, José Nuno Mendes est retrouvé mort dans sa cellule de Sainte, victime d'un infarctus. Et voilà donc pour ce rebondissement incroyable dans cette histoire. Seul donc Seridi va avoir des comptes à rendre devant la justice. On va en parler de ce procès dans le chapitre suivant. Maître Francesca Satta, que dit finalement le juge dans son ordonnance de 48 pages où il préconise, lui, un non-lieu pour Samir, hein.
Absolument.
Lui,
absolument.
Il dit qu'il n'a rien à voir dans tout ça.
Écoutez, ce dossier aura nécessité des années d'instruction, des années de recherche... et de recherches très minutieuses. Je crois que c'est un des dossiers qui a nécessité le plus, je dirais, d'investigation pour essayer de découvrir la vérité. Si le jugerait au terme de ces 50 pages, parce qu'il y avait 50 pages de ce réquisitoire qu'il prend, nous dit que effectivement Seridi est innocent, il a compilé tous les éléments qui permettaient de le définir. Pourquoi ? Il y avait deux angles qui choquaient, je dirais, dans le cheminement de Seridi. Le premier, c'était l'emploi du temps de ce dernier. Il fallait effectivement remplir les cases blanches qui restaient dans son emploi du temps et déterminer ce qui avait été son parcours tout au cours de cette soirée pour savoir si il avait été sur les lieux du crime ou pas. Et deuxième angle d'attaque, c'était évidemment la présence de l'ADN sur le pantalon de Jennifer Charron, qu'il fallait évidemment expliquer scientifiquement, ce qui a été démontré par l'analyse de l'expert d'Outre-Beupuiche.
Avec votre expertise, maître Charles-Emmanuel Andreau, avocat du père de Jennifer Charron, pourquoi vous avez fait appel sur quels éléments vous êtes fondé pour faire appel de ce non-lieu?
Mais le faisceau d'indices. D'abord, quand on a de tels reproches à faire à quelqu'un, le seul moyen de pouvoir prouver sa bonne foi, c'est de dire la vérité et d'avoir une position constante sur ses déclarations. On n'a jamais eu ça. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement la tâche de sperme également, une explication qui est complètement idiote, faut quand même le dire, hein. Enfin, ça ne convainc personne, ça ne convainc peut-être que lui, mais en tout cas pas la famille de Jennifer. Et puis le troisième élément, c'est qu'il a surtout cherché à construire de toutes pièces un alibi, puisque il a cherché à convaincre un certain Laren Ouaradi de pouvoir monter de toutes pièces un alibi en disant tu diras aux enquêteurs que j'étais à tel endroit à tel jour. Si on n'a rien à se reprocher, on n'a évidemment aucun alibi à construire. Et c'est sur trois arguments que la chambre de l'instruction a estimé nécessaire de renvoyer Seridi devant une cour d'assises.
Alors voilà, ça c'est pour l'accusation. Effectivement, on entend la parole de maître Andreau. Renan Chérel, journaliste pour Sud-Ouest. La justice, à ce moment-là, elle dit quoi? Elle dit, finalement, ces deux hommes, ils sont de mèche. Et ils ont fait le coup ensemble. Mais il y en a un qui disparaît, donc le dossier, il est totalement bancal, du coup.
ça a été un coup de massue quand on a appris là en décembre 2010 le décès de Mendes.
Bien sûr.
Nécessairement, comme vous le dites, l'affaire s'effondrait presque. Pour qui connaissait et suivait de près le dossier, j'entends Maître Andreau, lui, remettre en question les déclarations de Samir Seridi. Le fait est que les témoins qui affirment, la Seine-Noir a dit, qui affirment par exemple que Samir lui aurait demandé un alibi, lui-même, quand il est venu témoigner devant la cour d'assises de Charente-Maritime, il est arrivé entre deux gendarmes parce que la veille, ivre, il avait appelé les gendarmes pour dire « je vais le buter » parce qu'ils avaient un contentieux avec l'épouse de Monsieur Waradi. Mmh. Donc il y a des témoignages qui sont branlants de tous les côtés, mais les charges contre Samir peinent à s'étayer. La justice a du mal et l'enquête a du mal à démontrer son implication de manière matérielle, de manière temporelle, tandis que les charges à l'inverse contre José Nuno Mendes sont lourdes, concordantes.
Bien sûr.
On verra plus tard, au terme du procès, des éléments précis ont été avancés. Donc effectivement, en décembre 2010, il y a un coup de tonnerre. On se dit, on ne peut pas renvoyer, si un homme devait être renvoyé devant une cour d'assises, c'était pas Samir dans les médias.
Maître Sata, je vous pose exactement la même question. Le dossier, il est complètement à plat, là. Si on perd un des deux compères, si j'ai envie de dire...
Je suis d'accord avec vous, j'ai eu la même réflexion, bien évidemment, quand j'apprends la mort de Mendes, et que j'apprends de facto que Seridi est renvoyé devant la cour d'assises, je me dis, que va-t-on faire? Parce que nous n'avons que la partie de dossier de Mendes. Nous n'aurons pas lui en personne pour pouvoir lui poser des questions, pour pouvoir obtenir ses réactions et pour pouvoir expliquer aux jurés son implication éventuelle. Donc, on se retrouvait effectivement avec un grand pan de dossier qui tombait dans le vide et qui nous embêtait particulièrement pour la défense de Seridi.
Et je pense que c'est le même cas pour vous, Maître Charles-Emmanuel Andreau. La mort de Mendes, comment est-ce qu'ils ont réagi, vos clients, quand ils ont appris cette nouvelle?
D'abord, c'est quand même la surprise, puisque on pensait que c'était un suicide, ce n'est pas un. Hein, c'est juste une crise cardiaque qui a été faite, même s'il avait 42 ans. Manifestement, c'est la pathologie que le médecin légiste a retenue. Et donc, c'est d'abord la surprise. Ensuite, c'est... peu importe, il y aura quand même un accusé, si je puis dire, puisque Abdelaziz Seridi est encore sous le coup de la chambre de l'instruction et que on pourra toujours avoir un accusé. C'est très difficile à supporter, mais au moment de l'annonce du décès de Mendes, c'est d'abord la surprise et puis ensuite, de toute façon, il y a d'autres ADN et on pourra mettre un visage sur le nom de ce criminel.
4 ans après la mort de la jeune serveuse de Royan, Abdelaziz Seridi va donc devoir affronter tout seul la cour d'assises et tenter de démontrer, lui qui nie depuis le premier jour son implication dans le crime, son innocence. 12 décembre 2011, Abdelaziz Seridi, dit Samir, 41 ans, comparé libre devant la cour d'assises de la Charente-Maritime à Saintes. Une quarantaine de témoins doivent défiler pendant 5 jours. Un psychiatre qui l'a examiné le décrit comme un homme qui n'est pas mythomane, pas pervers, mais dont le discours manque de spontanéité, un individu détaché, sans affect, dit-il. Le fait est que la personnalité de Seridi est pour le moins chaotique, un homme livré le plus souvent à lui-même depuis son enfance. Sandrine, une amie très proche de Jennifer, ne croit toutefois pas que Samir ait pu faire du mal à sa copine. « C'est impossible, je crois en son innocence à 200 %, affirme-t-elle. L'accusation insiste sur ses traces de sperme, de l'accusé, relevées sur le jean et même sur le chemisier de la victime, alors que Seridi affirme lui-même qu'il n'avait plus de rapport sexuel depuis plus d'une semaine. Bataille d'experts en perspective. L'ombre de José Nuno Mendes ne va cesser de planer sur les audiences. C'est lui le suspect décédé avant le procès qui a impliqué Seridi au terme de déclarations fluctuantes et contradictoires. L'avocat général pense malgré tout que Seridi était bel et bien avec Mendes au moment de la tragédie, même s'il est impossible pour l'accusation de dire qui a tué Jennifer en la frappant avec une pierre sur la tête. 20 ans de réclusion sont réclamés par l'avocat général. Les jurés ne suivent pas. 16 décembre, à 21h50, après 2h40 de délibéré, Abdelaziz Seridi est acquitté. Le père et la belle-mère de Jennifer, redoutant cette décision, n'étaient pas là pour écouter le verdict. Et voilà donc pour ce procès tout aussi spectaculaire que cette affaire, avec cet acquittement rapide de l'accusé, Abdelaziz Seridi. Ronan Chérel, journaliste pour Sud-Ouest, qui avait suivi toute cette affaire, vous étiez à ce procès. Est-ce que c'était attendu, cet acquittement?
Bah, écoutez, je retourne la question depuis des années. Il me revient toujours le même sentiment que j'ai eu en arrivant au tribunal ce jour-là, le lundi matin. En me demandant un peu ce qu'on faisait là, je me dis, voilà, on va passer 5 jours, c'est long pour un procès d'assises, c'est toujours très long. 5 jours sur le cas d'un seul homme, bien sûr, on a évoqué Mendes, on en reparlera, mais au départ, le seul qui est dans le box, c'est Samir, et ceux qui ont à connaître du dossier sont perplexes. Et on se demande ce qu'on va se dire pendant 5 jours, et moi, surtout, je me pose la question, je me dis, on n'est jamais, entre guillemets, à l'abri de l'accident, si tant est que je tranche pour l'innocence de Samir, on n'est jamais à l'abri du jugement populaire, de gens qui ont une perception différente tout d'un coup d'un dossier, alors non pas qu'ils découvraient.
Bien sûr, parce bien sûr. C'est le propre des assises, bien sûr.
Mais avec ce risque d'une condamnation peut-être injustifiée.
Donc oui, effectivement, sur ce procès, il règne, enfin, on croit que l'issue, elle est déjà écrite, même si c'est toujours difficile d'en parler comme ça aux assises. Maître Francesca Satta, vous étiez évidemment à ce procès, vous défendez Seridi. Qu'est-ce qui a fait basculer finalement les jurés selon vous? Parce qu'il y avait l'ADN auquel on en a beaucoup parlé, mais je voudrais que vous parliez de l'emploi du temps, qui n'est pas terrible de votre client.
Voilà, il était important d'arriver à retracer tout l'emploi du temps de Seridi sur cette nuit. Il y avait un blanc de 2 heures à peu près qui n'était pas expliqué, que Seridi n'arrivait pas à expliquer ou à se souvenir. Tout simplement parce que c'est effectivement un homme qui vit au jour le jour, qui n'a pas véritablement de régularité dans son style de vie. Alors, que va-t-on faire ? Eh bien, c'est en cela que l'enquête a été très importante. On va réussir effectivement à déterminer que Seridi, au cours de cette soirée, va s'absenter du domicile de son voisin pour se rendre au domicile d'amis qui étaient descendus à Royan. Ils vont être tous interrogés, confirmer effectivement la présence de Seridi pendant le laps de temps où il n'était plus visible chez Waradi. Et il va également être expliqué qu'à un moment donné dans la soirée, il descendra chez son voisin du dessous pour aller prendre un bain, parce que à l'époque, Seridi vivait, je dirais, dans un état un peu pitoyable. Il n'avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau chez lui. Il vivotait à droite et à gauche. Et c'est grâce à la reconstitution de son emploi du temps, heure par heure, que nous avons pu arriver à convaincre les jurés, outre le problème de l'ADN, qui était aussi un problème très important, de démontrer effectivement qu'aux heures précises où Jennifer Charon est morte, Seridi n'était pas dans les bois avec elle.
Voilà, donc ça vous avez pu le démontrer, comme vous aviez pu démontrer que la machine à laver, elle fonctionnait pas si bien, et qu'elle n'avait pas pu détacher toutes ces traces de sperme sur le jean de la malheureuse victime. Maître Andro, avocat du père et de la belle-mère de Jennifer Charon, je suppose que lorsque le verdict tombe, c'est la déception totale dans le camp de la partie civile.
Mais c'est le drame. C'est le drame. Même si, au fur et à mesure des débats, cet acquittement finissait finalement par être attendu. Mais c'est le drame. Pour une raison très simple. On ne peut pas mettre de nom sur celui qui a tué la fille de Monsieur Didier Charon. Mmh. On ne peut pas mettre de nom. Celui qui regroupait tous les indices, il faut quand même le reconnaître, c'est Mendes. Les poursuites sont arrêtées à la suite de son décès, donc forcément, il n'est pas coupable. Et donc, aujourd'hui, Abdelaziz Seridi a été acquitté. On ne sait pas qui a tué Jennifer Charon. C'est le mystère de ce dossier, et pour une partie civile, mais c'est difficilement soutenable.
Et on le comprend bien, Maître Andro. Pourquoi donc le parquet n'a pas fait appel dans cette affaire ?
Le parquet n'a pas fait appel parce que, au fur et à mesure de l'évolution des débats, on voyait bien que on n'arriverait pas à faire dire à Monsieur Seridi ce que tout le monde attendait, et que l'épreuve était trop mince. Donc moi-même, je n'ai pas fait appel. J'aurais pu faire appel sur les intérêts civils, même si ça avait effectivement un impact extrêmement limité si le parquet ne faisait pas appel, bien évidemment. Donc cette décision, aussi cruelle qu'elle a été acceptée. Et c'est un peu aussi la force de mes clients, qui, malgré toute cette difficulté, mais accepte la justice telle qu'elle a été rendue, même avec ses imperfections. Et je trouve que c'est une vraie force, un vrai courage, même si, au fond d'eux-mêmes, ils ont toujours ce sentiment d'impunité qui est vraiment ancré en eux, vis-à-vis de ceux qui ont tué Jennifer. Ils arrivent à passer outre. Ils sont extrêmement forts.
Le doute a donc profité à l'accusé. Reste qu'après plus de 4 ans d'enquête, de vérification et de procès, le meurtre de la serveuse de Royan reste inexplicable. J'espère que les parents de Jennifer ont eu davantage d'explications au cours de cette semaine et qu'ils savent qui a réellement tué leur fille, indiquait Abdelaziz Seridi au soir de son acquittement en décembre 2011. Allusion faite évidemment au grand absent de ce procès, à savoir le Portugais José Nuno Mendes, mort avant d'avoir pu être jugé. Pour le juge d'instruction, cet homme était le seul vrai coupable dans cette affaire. Le père de la victime, Didier Charron, et la belle-mère de Jennifer, Isabelle Hugues, étaient persuadés de la culpabilité du duo Seridi-Mendes. Selon eux, Seridi était la tête pensante du meurtre. Mendes en aurait été le bras armé, sans que l'on connaisse le mobile qui les aurait poussés tous les deux à tuer la jeune femme. 15 ans après la mort de Jennifer Charron, les circonstances de sa mort sont connues, mais le nom de celui qui lui a ôté la vie reste officiellement une énigme. Et on retrouve dans cette heure du crime Maître Francesca Satta, qui est dans le studio de l'heure du crime, avocate avec Maître Moulineau, Jean Moulineau d'Abdelaziz Seridi. Vous avez suivi toute cette affaire et évidemment ce procès, cet acquittement. J'ai envie de vous demander, Maître Satta, c'est une affaire qui aurait dû être bouclée très vite, finalement. Il y avait plein d'indices, il y avait plein de suspects, il y avait des témoignages, il y avait des moyens donnés à la justice.
Elle aurait pu être bouclée plus vite.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'avère que tout ce qui avait été, je dirais, si bien fixé dès le début, avec deux accusés qui paraissaient effectivement, si on les prenait ainsi et en lisant l'histoire, être les accusés idéaux, je dirais, pour ce dossier, ce n'était pas le cas. Parce que effectivement, il a fallu tout démanteler au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête. Démanteler tout d'abord les certitudes marquer les incertitudes de ce dossier sur un emploi du temps, sur une personnalité aussi, parce qu'on en a très peu parlé, mais la personnalité de Seridi et la personnalité de Mendes étaient complètement différentes. Vous aviez effectivement un Mendes qui était très aguerri à toutes ces histoires judiciaires, qui avait un passif très lourd. Ce n'était pas du tout le cas de Seridi. Seridi n'avait aucune raison d'être aussi violent envers son ex-petite amie. Il s'était quitté en bons termes, donc rien ne laissait supposer qu'on pouvait en arriver à de tels faits. Il a véritablement fallu effectivement tout démanteler, montrer que l'évidence n'était pas aussi évidente. Et que l'idéal, je dirais, qui était fixé, parce que au demeurant à la fin, il ne restait plus que Seridi, qui apparaissait et qui était proclamé comme, je dirais, le coupable idéal, alors qu'on avait en face de nous un innocent. Et que moi, je me souviens de Seridi m'écrivant de la maison d'arrêt de Rochefort et signant toutes ses lettres en mettant l'innocent. Et j'ai cru en lui. J'ai cru en lui et je pouvais pas laisser faire une injustice. Et il fallait effectivement travailler, creuser chacun des points du dossier pour en arriver à démontrer son innocence.
Voilà ce que vous avez fait, puisque l'acquittement, il est sur des fondements techniques, j'ai envie de dire. Voilà, donc on n'est pas là dans le ressenti ou le blabla. Vous avez fait ouvrir cette machine à laver, on le rappelle, parce que ça c'est quand même extraordinaire. Et puis établi cet emploi du temps qui était très très flottant de votre client. Ronan Chérel, journaliste pour Sud-Ouest. J'ai envie de dire, dans cette affaire, on est peut-être passé pas très loin de la vérité, mais il y avait sans doute un suspect de trop, et ça, c'est finalement tout ce qui a fait embrouiller le dossier.
C'est le paradoxe de cette affaire, c'est qu'il y avait profusion, vous l'avez dit, d'éléments techniques, et puis on s'est retrouvé à un moment donné avec deux suspects. La justice n'est pas parvenue à raccrocher le lien entre les deux. À aucun moment de l'instruction, il a été établi que les deux hommes se connaissaient. Donc pour la collusion, forcément, c'était compliqué à démontrer, plus que compliqué. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Et tout à fait, je vous entends. On vous entend parfaitement, Roland Chérel, allez-y.
Tout à fait. Dans cette affaire, il a pas manqué d'éléments techniques. Il a manqué peut-être de la parole de vérité, peut-être de José Nuno Mendes d'un côté. Il a manqué aussi, je vais vous surprendre. Il a manqué l'interpellation de Samir quelques semaines avant le meurtre de Jennifer Charron. Je m'explique. Le nom d'Abdelaziz Seridi était dans un dossier de stupéfiants. Il a été démantelé un réseau de trafic sur le pays royanais quelques semaines avant le meurtre de Jennifer Charron. Et le nom d'Abdelaziz Seridi apparaissait dans ce dossier. Mais il n'a pas été jugé comme comme une cible potentielle intéressante entrant dans le grand cortège de d'interpellations qui ont été menées vraiment l'affaire 3 semaines avant l'affaire Jennifer. Et paradoxalement, s'il avait été incarcéré, pour bien le sûr, coup, il avait l'alibi parfait.
L'alibi parfait, ça lui aurait rendu service en quelque sorte. Oui, bien sûr, je comprends bien. C'est intéressant d'ailleurs parce que voilà. Encore un petit mot très court, Roland Chérel. Il y a personne qui croyait finalement à la culpabilité de Seridi, sauf peut-être le papa de Jennifer.
Et on serait tenté de dire le parquet du tribunal de Saintes, qui a contesté l'ordonnance de non-lieu qui avait été rendue pourtant par le juge d'instruction Serge Ray. Après, à l'issue même du procès, j'avais mis une hypothèse qui n'a jamais été ni vérifiée, mais ni contredite par le parquet lui-même. Je me demande si le parquet n'a pas, pour mettre en exergue la culpabilité éventuelle de Josué Mendes, je ne suis pas autorisé à vous dire qu'il était coupable, comme je l'ai titré, la mort l'a innocenté, mais pour mettre en exergue toutes les charges qui pesaient sur Josué Mendes, son absence d'explication rationnelle, des éléments techniques à charge contre lui, je me demande si on n'a pas voulu mettre à côté de lui Abdelaziz Seridi, et avec tout le flou qui entourait les pseudo-preuves avancées contre lui, pour bien mettre en relief, au contraire, la culpabilité de José Nuno Mendes.
Bien sûr. Maître Sata, on va terminer cette émission avec vous. Il y a quand même quelque chose de terrifiant, toujours dans ce genre d'affaires, c'est que la vérité, on l'a pas. Et qu'on pense à la famille, même si vous
bien
étiez
évidemment.
Vous dans
bien
le camp
évidemment,
de la
défense. Bien évidemment, je comprends tout à fait la famille et je comprends évidemment leur amertume en sortant de ce procès, parce qu'ils n'ont pas de réponse encore aujourd'hui sur qui a tué leur fille. Mais moi, qui étais avocat de Seridi, j'avais pour mission de démontrer son innocence et surtout qu'un innocent ne soit pas le coupable idéal.
Merci beaucoup Maître Francesca Sata, Ronan Chérel et Maître Charles-Emmanuel Andraud d'avoir été les invités de l'émission L'Heure du Crime. Merci à l'équipe Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.